Si nous pouvons retrouver la dépouille de Lord Percival, pourquoi pas celle de Mallory ou d'Irvin, ou des deux? Parmi les nombreux offices religieux célébrés en mémoire de Mallory et d'Irvin en cette fin d'été et en cet automne 1924, le plus important sans doute se tient à la cathédrale Saint-Paul le 17 octobre. On y assiste exclusivement sur invitation, et le diacre est le seul de notre groupe à y être convié. S'il nous parle peu de la cérémonie après coup, l'éloge funèbre prononcé par l'évêque de Chester s'étale dans tous les journaux londoniens. Le discours se termine par une référence à la complainte du roi David tirée de la Bible. Aimables et chéris pendant leur vie, tels étaient George Mallory et Andrew Irvin. Ils n'ont point été séparés dans leur mort. Le lendemain, Jean-Claude me fait remarquer que si, comme c'est probable, l'un des deux est tombé au cours de l'ascension ou de la descente, ils ont certainement été séparés pendant leurs dernières minutes ou leurs dernières heures. L'évêque de Chester ne fait qu'une allusion vague à la disparition de Lord Percival Bromley et Kurt Meyer, comme nous nous rappelons les autres disparus dans la montagne ce même mois. Et Lady Bromley n'organise pas de cérémonie commémorative pour son fils. Peut-être parce qu'elle le croit encore en vie quelque part sur l'Everest ou le glacier du Roongbuck, et s'imagine vraiment que nous le retrouverons et le sauverons, un an après sa disparition. Elle a exhorté le diacre à lancer l'expédition dès cet automne et à tenter le sauvetage dans l'Everest cet hiver, mais il l'a assuré que les voies d'accès à la montagne étaient impraticables et les sommets impossibles à escalader en cette saison. Au plus profond d'elle-même, Lady Bromley doit savoir que notre future expédition sera, au mieux, une expédition de recherche et sûrement pas une tentative de sauvetage. Le soir du 17 octobre se tient une assemblée où il est largement question de Mallory et d'Irvin. Cette fois, le diacre réussit à nous faire entrer, J.C. et moi, bien que l'affluence ait obligé les organisateurs à louer le Royal Albert Hall pour l'occasion. La Royal Geographical Society et l'Alpine Club font réunion commune pour entendre les comptes rendus de l'expédition de 1924 sur l'Everest. La foule, surtout composée d'alpinistes et d'une cohue de reporters, se montre passionnée. Le programme s'achève par la lecture du rapport établi par le photographe alpiniste géologue Noël Odell, qui, de l'avis de beaucoup, aurait dû accompagner Mallory à la place du jeune Irvin dans cette ultime tentative de gravir le sommet. Alors que lui-même se trouvait entre les camps 5 et 6, Odell a été le dernier à apercevoir les deux grimpeurs lors d'une brève éclaircie, même s'il ne semble plus très sûr d'avoir distingué les deux points noirs en mouvement dans un champ de neige au-dessus du premier ressaut de l'arête nord-est, au-dessus du deuxième ressaut, ou même après le troisième ressaut sur la pyramide proche du sommet. « L'Everest a-t-il été vaincu ?» écrivait Odell dans son compte-rendu. La question doit demeurer sans réponse puisqu'il n'existe aucune preuve directe. Mais vu les conditions et eu égard à leur position la dernière fois qu'ils ont été vus, je crois qu'il y a une forte probabilité que Mallory et Irvin aient réussi. Je n'en dirai pas davantage. Cette déclaration suscite murmures et chuchotements dans la foule des ascensionnistes. Pour nombre d'entre eux, dont certains partenaires de Mallory et d'Irvin dans l'expédition, les informations disponibles ne permettent pas d'aboutir à la même conclusion. Même si Odell a bien vu, et si Mallory et Irvin ont réellement réussi à escalader le dangereux deuxième ressaut, il était trop tard dans la journée pour tenter une ascension du sommet. Il leur aurait fallu ensuite redescendre dans l'obscurité, et leur bouteille d'oxygène devait être vide ou presque à une heure aussi tardive. Pour la plupart des alpinistes de classe internationale réunis ce soir à l'Albert Hall, Mallory et Irvin se sont aventurés trop loin, trop tard. Ils ont fait demi-tour dans le noir, sans doute bien avant d'avoir approché le sommet, et ont trouvé la mort en chutant sur la face nord, dans la nuit venteuse et d'un froid lunaire, quelque part au-dessus des 8200 mètres, ou dans l'irrespirable air martien autour des 8500 mètres. Je me souviens cependant de la puissante vague de protestation soulevée par la conclusion du communiqué d'Odell, selon lequel les deux hommes étaient morts de froid. Mort de froid n'est tout simplement pas une fin assez noble pour ces deux héros de la nation en passe de devenir des légendes anglaises. Même les alpinistes étrangers qui ont connu Mallory et ont grimpé avec lui, des hommes immunisés contre la fièvre patriotique qui s'est emparée de l'Albert Hall ce soir d'octobre, n'y croient pas. De l'avis général, l'un des deux hommes, sûrement Irvine, est tombé en redescendant du sommet ou du point qu'ils avaient atteint ce soir-là avant le coucher du soleil et a entraîné l'autre dans sa chute. Peut-être s'était-il aventuré sur la face nord, dans l'obscurité, pour se mettre à l'abri du vent. Même Edward Norton, le chef officiel de l'expédition fatale de 1924, a écrit du camp de base. « Je regrette beaucoup qu'Odell ait mentionné une mort par hypothermie dans son communiqué. » Et il ajoutait à l'intention du comité de l'Everest, « Pour nous autres, il ne fait presque aucun doute qu'il s'agit d'une chute. » Sur le trajet de notre hôtel ce soir d'octobre, après la réunion de l'Alpine Club, Jean-Claude demande au diacre « Richard, croyez-vous que Mallory et Irvine aient atteint le sommet ?»«
Je n'en ai aucune idée », répond notre ami britannique, sa pipe serrée entre ses dents.
Le parfum de son tabac laisse un sillage odorant dans l'air froid et humide, tandis que nous nous hâtons de rentrer.
« Vous croyez qu'ils sont morts de froid ?»
insiste J.C.
« Ou qu'ils ont dévissé ?»
Le diacre sort sa pipe de sa bouche et nous regarde. Ses yeux gris étincellent à la lumière du réverbère au coin de la rue. Les informations rendues publiques par l'Alpine Journal et par les témoins ne suffisent pas pour se faire une opinion sur les circonstances ou le lieu de leur mort. Nous devons parler à Norton, John Noel, Odell, au docteur Somerville et à d'autres amis à moi qui ont participé à la dernière expédition. Ensuite, il faudra aller en Allemagne, à Munich, pour interroger le dénommé Bruno Siegel, qui prétend avoir vu l'avalanche emporter Bromley et le mystérieux Autrichien. Vous n'êtes pas d'accord ? Jean-Claude et moi échangeons un regard. Je lis dans ses yeux qu'il n'acceptera jamais de mettre les pieds en Allemagne, avec le diacre et moi. Les Allemands ont tué trois de ses frères, et il s'est juré il y a longtemps de ne jamais franchir cette frontière. « Je sais, Jean-Claude, » reprend le diacre, bien que notre ami n'ait pas ouvert la bouche. « Je comprends. Jake et moi nous rendrons à Munich le mois prochain et nous vous raconterons ce que ce Siegel nous aura dit à propos de la mort de Lord Percival et de Meyer. Peut-être aura-t-il aussi des détails à nous fournir concernant la disparition de Mallory et d'Irvine. Mais restez à Londres assez longtemps pour venir voir Norton et les autres avec nous.
Et si ce Siegel ne dispose d'aucun détail sur quoi que ce soit ?
Dis-je d'un ton presque plaintif.
Si nous perdons du temps à aller à Munich sans rien apprendre de nouveau sur Mallory et Irvine, ou plus important pour notre mission, sur ce qui est arrivé à Lord Bromley.
Eh bien, dans ce cas, répond le diacre avec un sourire presque carnassier, il nous faudra aller dans l'Everest au mois de mars prochain pour le découvrir par nous-mêmes. Si nous pouvons retrouver la dépouille de Lord Percival, pourquoi pas celle de Mallory ou d'Irvine, ou des deux ? Les vents secs de l'Everest dessèchent et momifient les cadavres bien plus efficacement que les grands prêtres de l'Égypte antique.